sur Radio B. Résonance. Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Aujourd'hui, nous vous proposons le troisième et dernier volet de notre série d'émissions consacrée à la nouvelle édition de Naturellement, Art, Nature, Singularité, une manifestation d'art contemporain qui incite à la rencontre et au respect des différences. Reconduite pour la deuxième fois sur la base d'un appel à projet, Naturellement, Art, Nature, Singularité, à Comment je forme la rencontre d'artistes en résidence, interagissant avec des personnes en situation de handicap et débouchant sur une installation artistique dans un site naturel remarquable. Sa programmation originale s'adresse donc à tous les amateurs de promenades culturelles et transfrontalières, que ce soit à Coponex, au pôle Land Art Art départemental, le plat de l'ESAT de la ferme de Chosal en Haute-Savoie, à Bourg-en-Bresse, sur le Champ de Mars, ou comme aujourd'hui, en plein cœur de la cité genevoise, au Bain-Paquis, où est installée l'œuvre de Viviane Rabault, le ministère des Affaires de la Terre. Pour ce faire, Résonance a installé ses micros dans les locaux de la Fondation Cap Loisirs à Genève, qui est l'un des partenaires de ce projet. Et pour évoquer ce dernier temps fort de l'édition 2015 de Naturellement Art, Nature, Singularité à Genève, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro tout d'abord Viviane Rabault. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes l'artiste en résidence et qui a réalisé, imaginé, le ministère des Affaires de la Terre.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Bonjour et bienvenue. À vos côtés, Sylvie Acco, vous êtes assistante d'animation à la Fondation de Cap Loisirs.
Oui, c'est ça.
Bonjour, bienvenue. J'ai aussi à mes côtés l'une des participantes qui était aussi dans cette rencontre avec Viviane Rabault, Irun Vasquez. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Merci.
Également à vos côtés, et nous pourrons parler plus globalement du projet avec Jeanne Pont, vous êtes attachée culturelle à la direction du département de la culture et du sport de la ville de Genève.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et puis César Barbosa, vous appartenez à la Fondation Cap Loisirs et vous êtes co-responsable pour les activités adultes sur la partie loisirs à Cap Loisirs.
Oui, c'est juste. Bonjour.
Voilà. Alors, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, si cette émission est enregistrée le 31 octobre et qu'elle sera diffusée seulement dans le mois de novembre, une artiste aujourd'hui a plein de choses à faire lorsqu'il s'agit donc de l'inauguration, puisque cette émission est enregistrée ici à Genève le jour même de l'inauguration. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, tout de suite nous rapprocher de Viviane Rabault et puis d'évoquer avec elle justement sa présence et l'ensemble un petit peu de ce projet. Alors peut-être dans un premier moment, Viviane Rabault, je crois que quand même au sein même de votre propre démarche artistique, je dirais la rencontre, c'est quelque chose qui motive avant tout le projet artistique et la raison d'être même du projet artistique.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc en fait, moi j'ai une démarche ou un processus participatif.
C'est ça.
Donc, sur ce projet-là, je rencontre des personnes que je ne connais pas. Mmh. Donc là, au Bain des Paquis et ici à l'association Cap Loisir. Donc, j'ai rencontré Iroun. Et je propose à ces personnes de faire, pour ce projet-là toujours, une rencontre tricotinée.
Alors, qu'est-ce que c'est que la rencontre tricotine ?
Alors, la rencontre tricotinée, c'est je propose, donc là, c'était sur le projet autour du ministère des Affaires de la Terre, j'avais des pelotes de laine couleur terre. Mmh. Et je propose à la personne de choisir une pelote de laine. Mmh. Et j'ai un tricotin mécanique. Et donc, on passe la laine dans ce tricotin mécanique et la personne a juste ce geste de mouliner, voilà. Et puis, on discute ensemble. Voilà, pendant ce temps-là, la discussion est enregistrée et moi, je récolte... En fait,
toutes ces discussions, toutes ces paroles.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui est présenté dans l'installation finale après.
Là, il y a quelque chose d'assez... Enfin, il y a la démarche de rencontre, mais il y a aussi comment, finalement, sur le fond, et je pense que le titre n'est pas étranger, le ministère des Affaires de la Terre, il y a une espèce d'éthique, il y a une espèce de place aussi la plus respectueuse de l'individu, et surtout de la parole de l'individu. Donc, du coup, quelque part, c'est quelque chose qui vient quand même questionner de manière assez profonde les fonctionnements d'une démocratie et d'une société, finalement.
Mmh. Oui, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, quand je suis dans cette démarche participative, c'est de mettre la parole dans l'espace public, en fait. La parole d'habitants, de citoyens dans l'espace public. Et là, le thème était imposé, enfin, dans l'appel à projet, c'était sur le thème de la Terre.
Ça qui vous a fait réagir aussi et de vous dire, tiens, c'est intéressant que je me focalise sur cet appel à projet ?
Oui, complètement. Parce qu'il y avait ça et il y avait le côté échange de terre entre les différents lieux que vous avez nommés tout à l'heure. Et il y avait cette histoire d'ambassadeur, c'est-à-dire que les personnes qui échangeaient la terre venaient raconter leur échange
L'origine
de terre.
L'origine et leur échange de terre.
Et du coup, moi, c'est ce mot-là qui a été vachement déclencheur pour moi, d'ambassadeur. Donc, c'est les ministères des Affaires étrangères.
C'est
et puis là, on va faire le ministère des Affaires de la Terre, puisque c'est le sujet. Voilà.
Et là, l'espace qui va l'accueillir, donc on en parlera un petit peu plus loin tout à l'heure dans l'émission, c'est les Bains Paquis, un espace aussi très fort, aussi dans le cœur de la cité de Genève, parce qu'aussi un côté, Jeanne Pont me corrigera, mais aussi assez populaire pour la ville de Genève.
Oui, c'est vraiment un des lieux les plus multiculturels qu'on puisse trouver à Genève, aussi bien au niveau, on va dire, sociodémographique. On a toutes sortes de gens, de toutes sortes de profils et de toutes sortes de cultures qui se croisent vraiment entre les grands hôtels de luxe et les banques, les grandes banques suisses au milieu du lac.
Donc le ministère des Affaires de la Terre résonne avec une certaine acuité, une certaine même pertinence, voire subversité aussi. C'est subversif quand même.
Oui, et puis il a tout à fait sa place à Genève. Enfin, voilà, c'est pas rien de mettre ça justement
ça
à cet endroit-là.
À cet endroit-là.
Voilà.
Et du coup, j'imagine que depuis plusieurs jours, les choses s'installent sur l'endroit même. Ça provoque des interpellations. Alors là, on évoquait, il y avait des phénomènes de rencontre, mais le fait que du coup l'œuvre s'installe, prenne forme, respire aussi dans cet espace-là. Est-ce que ça a provoqué là aussi d'autres rencontres, d'autres réactions de ceux et celles qui n'étaient pas forcément au courant ou sont venus vous interpeller ou ça a engagé là aussi des discussions ?
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même un lieu où ça brasse énormément de monde. Moi, on y était encore hier et j'ai l'impression qu'on était samedi. En fait, dès qu'il fait beau, c'est vraiment... Il y a beaucoup de monde qui s'y promène. Après, c'est justement pour ça que je dois partir, c'est que je n'ai pas encore installé les... Donc, la serre est installée, parce que c'est une serre, l'installation finale. Le mât était en place hier, parce que tout ministère a un mât et un drapeau, donc là, c'est pareil. Le jardin... Il y a un jardin, parce que tout ministère a un jardin aussi. Donc là, il y a un jardin. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on a mise en place, parce que j'ai fait ça aussi avec... des personnes autour de ce projet-là. On a déplacé 4 mètres cubes de terre. C'est du compost, voilà. Et donc, c'est quand même plus léger qu'une terre normale, mais c'était quand même... Voilà. Et ça a déjà déclenché des choses, parce que ça dérange quelque part. Pas négatif comme mot,
bien sûr.
Avant, c'était un bac à sable. Du coup, d'un coup, c'est plus un bac à sable, c'est un jardin et du ministère. Donc, les gens parlent beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de retenue sur qu'est-ce que vous faites.
Oui.
Mais c'est vachement, enfin, c'est très bien.
Moi, c'est ce que vous recherchiez finalement.
Mais oui, complètement. Ouais, ça fait partie du projet. Ouais.
Et peut-être, Iroun, qui est à mes côtés, vous avez participé directement aussi avec Viviane Rabault. Oui. Alors, comment vous avez vécu ce moment d'échange et aussi et de rencontre avec Viviane Rabault et ce projet du ministère des Affaires de la Terre?
Moi, j'ai bien aimé.
Oui.
C'était très joli ce qu'elle a fait.
Oui.
Et puis, il y avait des gens qui demandaient qu'est-ce que c'était, ce qu'on faisait. Et puis, on a expliqué beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Et puis les gens, ils disaient c'est bien, parce qu'avoir un bac à sable, ça sert à rien.
Ah, il y en a qui trouvaient que du coup de transformer cet espace-là avec l'imagination, oui, avec cette proposition-là, ça donnait un autre sens qu'au bac à sable qui était là habituellement.
Oui, parce qu'il n'y a personne qui l'utilise.
D'accord. Ah, peut-être que là, du coup, ça va créer une autre...
Oui, puis là, c'était très joli. Même les enfants, ils ont trouvé chouette.
Et puis alors, tout à l'heure, Viviane Rabault évoquait les tricotinés.
Oui, le tricotin, c'est...
Tricotin, et comment, alors, voilà, vous aussi,
ça
vous
fait comme
participé.
Un fil.
Oui.
Puis on peut aussi tricoter avec.
Oui.
Avec des aiguilles, on peut faire plein de trucs avec.
Et vous avez fait plein de trucs.
Non, on a fait la boule... la planète, comme on dit.
Oui.
On a fait une grande boule de planète, comme la planète. Elle grossissait,
ouais.
Ouais. Mais c'était joli à voir.
C'était joli à voir, de voir petit à petit la forme qui se dégageait.
Oui.
Et alors du coup, Viviane Rabault évoquait que c'était, il y avait cette chose en train de se faire.
Oui.
Mais en même temps, le fait que cette chose se faisait, ça engageait aussi la conversation.
Oui, avec les gens qui étaient là-bas.
Et alors, comment ça a conversé justement? Qu'est-ce qui se racontait?
Bah, les gens au restaurant, ils disaient que c'était joli, que c'était bien ce qu'ils avaient fait. Puis je crois qu'ils ont été aussi des gens lui dire que c'était très joli, non?
Oui, tout à fait, non, mais c'est ça.
Viviane Rabault. Et du coup, quel sens ça a pour vous d'intituler l'œuvre qui va s'inaugurer tout à l'heure,
oui,
le ministère des Affaires de la Terre? Pour vous, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Pour moi, ça représente des gens qui sont au ministère.
Oui. Donc, du coup, qui ont une responsabilité, quelque,
oui,
part aussi, de là où on vit, d'un cadre où on vit.
D'accord.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu? On en parle beaucoup aujourd'hui de notre planète, de la difficulté. Peut-être aussi que nous, les hommes, petit à petit, on fait un peu que celle-ci s'altère. Enfin, elle est moins idéale de ce qu'elle était au départ. Vous trouvez que c'est important aussi d'attirer l'attention comme ça?
Oui, c'est aussi important d'attirer l'attention avec les gens qui sont là-bas aussi, beaucoup. Et puis même les handicaps aussi, ils aiment bien... faire le travail qu'elle a fait, Viviane.
Ça, c'est peut-être aussi un autre aspect qui était important, puisqu'on a parlé d'échange de terres, mais aussi dans ce projet, ce qui était important, c'est que finalement, des personnes du territoire de la Haute-Savoie, des personnes aussi,
oui,
du département de l'Ain, sont aussi venues,
oui,
et ça élargissait encore cette
rencontre. Et puis, ils sont repartis avec la terre qu'ils avaient amenée de là-bas.
Il y a eu des épisodes, alors on a amené la terre, on est reparti avec d'autres terres, mais c'est peut-être ça aussi le ministère de la Terre, c'est des histoires d'échange.
N'est-ce pas? Ils sont revenus après.
Et ils sont revenus après. Ça aussi c'était important finalement, que échange de terres, mais aussi le fait que ça associe des personnes de territoires différents.
Ah bah oui, ouais. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes, j'ai regardé ça hier, j'ai entre 8 ans et 88 ans.
Oui.
Voilà, et des personnes de tout qui venaient de tout horizon, parce que à Genève il n'y a pas que des personnes qui sont suisses. Enfin voilà, donc c'était d'autant plus riche. Et voilà, enfin c'est bien ce mélange là, ouais, complètement.
Je crois, Jeanne Pont, que du coup ça semble en partie déjà au travers de ce que nous dit Viviane Rabault et puis Iroun Vasquez, voilà, être déjà un point de réussite. On verra peut-être tout à l'heure à se dire, tiens, peut-être qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de toute cette action globale. Mais là, rien que dans ce qu'on entend, dans ce que ça met en synergie, en contact, il me semble que ça répond totalement à peut-être ce qui était attendu à l'intérieur de ce projet.
C'était l'un des éléments du bilan de l'édition 2013, donc de la première édition, qui était de dire que finalement, le mélange déjà entre les trois territoires partenaires, c'était pas assez fait. Et là, un des points vraiment, une très belle réussite de ce projet, c'est que déjà au niveau de la conception des œuvres dans les trois territoires, et à Genève, ça a vraiment été complètement réalisé, l'artiste a véritablement travaillé avec des délégations de personnes en situation de handicap venant des trois territoires. Mmh. Et donc, c'est non seulement une œuvre participative, mais participative au niveau transfrontalier.
C'est ça.
Et en plus, ça se passe à Genève dans un site extrêmement multiculturel, d'où le 8 à 88 ans, de toutes sortes de natures et de toutes sortes d'origines.
Je dirais que c'est d'autant plus important, vu l'actualité qui est tellement forte aujourd'hui, brassage des cultures, des migrants, des réfugiés, etc. Et on voit bien que tout ça, notre capacité à accueillir l'autre, notre capacité à avoir un autre regard sur l'étranger, celui qui n'est pas d'ici, c'est un fondamental. Et là, peut-être la Viviane Rabeau, votre œuvre, elle contribue, en tout cas, enfin, cette initiative-là, à continuer d'interpeller sur ces étances propres que, du coup, on ne peut exister qu'avec les autres et en complémentarité des autres.
Ouais, ça s'est vachement ressenti dans les... En fait, je posais tout le temps les mêmes questions à toutes les personnes que je rencontrais.
Ouais.
Et on était vraiment dans l'actualité avec tous ces migrants. Et ça a été... je ne sais pas si vous aurez l'occasion de venir voir, du coup, les phrases dans la serre. Mais c'est très, très présent, cette notion-là. Enfin, on sent que les personnes étaient concernées et ont donné leur point de vue sur cette actualité, quoi.
Alors, je sais que Viviane Rabeau, vous allez être obligée de nous quitter dans le courant de cette émission. Là, on le disait tout à l'heure, par rapport à les terminer, en tout cas, pour que tout soit prêt pour tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, on ne va pas vous retenir plus, mais je voulais juste, peut-être pour terminer, il y a d'autres projets en cours du même ordre pour vous dans les prochaines semaines. Pour vous, quel type de projet, par exemple, et dans quel territoire?
Là, après, j'enchaîne sur l'Ardèche, dans un collège. Mmh. Où j'ai ouvert un bureau que j'ai appelé le bureau des bilans artistiques. Et donc là aussi, c'est un processus participatif et c'est pour un peu découvrir ce que c'est que le collège et c'est quoi des collégiens aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup Viviane Rabeau d'avoir été ici dans ces instants précieux quelques temps avant l'inauguration.
Merci à vous.
Et à très bientôt. Je le disais tout à l'heure, l'un de ses partenaires engagés dans ce projet 2015, du côté de la Suisse voisine, c'est la Fondation Cap Loisirs, et plus particulièrement l'espace 34. Alors un petit coucou amical et vœux de rétablissement à Nicole Reimann, qui est la responsable de l'espace 34 et qui a eu un petit accident du quotidien, de circulation, et dont du coup on lui souhaite tous les prompts rétablissements, en tout cas, elle devait être parmi nous. Mais voilà, on pense à elle, mais il y a aussi, bien sûr, à nos côtés, César Barbosa qui est là. Et je voudrais peut-être, César Barbosa, si vous le voulez bien, qu'on dise un petit peu quelques mots sur la Fondation Cap Loisirs, sur ses missions, ses enjeux. C'est quoi la Fondation Cap Loisirs?
La Fondation Cap Loisirs s'occupe depuis 1980. Donc là, justement, cette année, on fête notre 35e anniversaire.
35e, non
ouais. Hein, voilà. Et on a eu plusieurs projets. Et ça tombait bien cette année aussi de participer à ce projet transfrontalier. Parce que c'est une façon aussi de sortir dans la rue de la Fondation Cap Loisirs. Donc, autre particularité, on travaille avec des personnes depuis la petite enfance, 5-6 ans, jusqu'à aujourd'hui, on a 3-4 personnes, 83-84, donc on a un impact sur la vie qui se tient sur la durée aussi.
Oui, parce que pour la Fondation Cap Loisirs, ce qui est important, c'est l'art de mettre les loisirs au service des personnes avec une déficience mentale et leur famille.
Oui, tout à fait. Donc, on répond à deux objectifs. D'un côté, c'est l'offrir à des gens comme Iloun la possibilité d'avoir des week-ends avec une pratique artistique
oui.
ou de socialisation, de oui. rencontres.
Oui.
Et aussi, de l'autre côté, c'est offrir aux parents, surtout ceux qui ont des enfants, un moment de repos ou un moment aussi pour s'occuper de la fratrie. Donc, on travaille dans ces deux axes. Et puis, à long terme, une fois que les familles ne sont plus là, il reste qu'à placer quand même pour les voilà. accompagner. Oui. Donc, dans nos activités, on a plusieurs secteurs, plusieurs animateurs qui développent des activités soit culturelles, soit oui. sportives, mm-hmm. soit sensorielles. Mm-hmm. C'est une large palette, en fait.
Et ça veut dire que, du coup, Cap Loisir développe aussi des partenariats différents avec des acteurs culturels, avec... Il y a un tissage aussi qui se fait de par rapport aux activités de loisirs que vous essayez de mettre en œuvre et proposer. Et ça oblige à travailler en partenariat avec nombreux acteurs culturels sur la cité.
Tout à fait. Et puis, dans l'évolution de Cap Loisir, là, on parlait de l'espace 34.
Oui.
Donc, ces dernières années, on s'est rendu compte aussi que la demande qui venait de nos participants, c'était aussi être dans la ville, faire ses activités dans la ville. Donc, tout au début, on était plus à trouver un espace de repos de week-end dans la nature. Petit à petit, on est revenu à la ville et on a commencé à tisser des partenariats. Justement, on a commencé d'abord avec une personne, par exemple, avec son atelier. Puis petit à petit, on est passé à établir des partenariats avec des associations. Donc là, aujourd'hui, ben voilà, on est même hors frontière. Donc,
c'est ça.
C'est des étapes comme ça qui nous a permis aussi de continuellement reformuler nos prestations, reformuler la place de la personne handicapée, reformuler la place de l'artiste. Et aujourd'hui, on est dans une étape, comme vient de décrire Vivian, de projet oui. où il y a une place à peu près pareille pour la personne qui est en situation de déficience mentale et l'artiste.
Et ça, c'est important, justement, pour Cap Loisir. Vous le souleviez, il y a ces années d'engagement, parce qu'on peut vraiment parler, je pense, effectivement, d'engagement. 1980-2015, c'est pas rien de tenir, je veux dire, un petit peu ces objectifs-là. Donc, d'être inscrit dans un projet comme celui-ci, c'était important pour Cap Loisir aussi de pouvoir participer à un projet transfrontalier de cet ordre.
Ah oui, c'était très important, autant pour nous en tant que professionnels, pour tisser de nouveaux liens aussi. On vient d'écouter l'expérience d'Ilune, c'est l'offrir la possibilité à eux aussi de se retrouver avec des différents usagers, des différents territoires. Il y a des expériences, il y a des rencontres qui se font, des amitiés. Donc c'est très très riche et très varié. Et ça permet aussi à des collègues à moi comme Sylvia aussi de participer à des projets qui nous sortent un petit peu de la routine d'autres week-ends. Donc c'est un projet.
Iroun, vous venez régulièrement à Cap Loisir
Je viens le mardi et le jeudi.
Voilà.
À
l'accueil. Et ça fait combien d'années que vous venez ici à
Cap Loisir? Ça fait pas longtemps. Oui.
Vous avez découvert comment Cap Loisir?
Par un collègue
qui venait suivre un petit peu des activités
oui.
ici.
Avec Yann et Laura. Ils m'ont dit, va t'inscrire, c'est bien, c'est chouette, tu fais des voyages. Comme on avait été en Sicile, c'était chouette.
Et quelles sont les activités qui vous attirent le plus dans les propositions que fait Cap Loisir?
Les jeux, jouer avec les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer,
oui.
pour leur montrer des jeux qui sont difficiles.
Quel type de jeu alors, du coup?
Le Rémi aussi, c'est un jeu que j'arriverai pas moi à suivre, mais ça va très bien. Et puis, il y a des autres jeux que j'ai jamais fait quand j'étais enfant, ce qu'on n'avait pas. Et j'ai appris ici à jouer. Et c'est
donc
très
ça,
bien.
C'est super, ça, alors.
Et c'est chouette.
Et puis là, il y a des activités, effectivement, autour du jeu. Et puis, quand on évoquait tout à l'heure, en présence de Viviane Rabault, voilà, le ministère des Affaires de la Terre, il y a des dimensions plus artistiques. Et il y a des aspects artistiques qui vous intéressent plus que d'autres. Par
oui,
exemple,
là, on était dans... Oui, ce qu'elle fait, elle, c'est très joli. J'adore
ouais.
ça.
Vous et aimez puis... vous aventurer dans ce côté pictural ou plastique
oui. Oui, j'aime bien.
Et là, il y a des ateliers que vous suivez ici, autrement?
Non. Non, non, moi, je viens que le mardi et le jeudi. Je vais à l'accueil. Pas l'accueil, on fait les jeux, on regarde les revues, on se parle.
Ça, c'est important de pouvoir se parler.
Oui. Hein, c'est... Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir parler à la maison.
Oui. Et d'avoir un espace d'être entendu, d'accord, de pouvoir parler, partager avec les autres.
Et puis être un peu en contact avec, avec les gens qui ne peuvent pas dire quelque chose.
C'est important, ça?
Oui. Il faut leur aider aussi à être comme tout le monde.
Du coup, ça vous permet, vous, à la fois d'échanger, mais aussi de donner aussi aux autres. C'est important, ça, de pouvoir... On peut recevoir, mais aussi donner.
Oui, mais il faut aimer son prochain, et puis son prochain, ils nous aimeront. Voilà.
Donc, ça commence bien. Je trouve que c'est important, ce que vous dites. C'est bien parce que nous, on va faire la démarche vis-à-vis de l'autre.
Oui.
Que du coup, ça va prendre sens pour nous et qu'il va se passer autre chose. Si on est sur de la réticence, ça va être compliqué.
Parce que moi, je travaille avec des gens qui sont handicapés au travail.
Ouais.
Voilà.
Bien sûr. Sylviane, vous aussi, vous, K.O., vous êtes assistante d'animation. Vous travaillez ici aussi donc à Cap Loisir. C'est important dans tout ce qu'on vient d'entendre. J'imagine que ça fait partie du cœur de votre travail, d'essayer d'être dans cette médiation et que les uns et les autres, d'abord, se sentent bien ici. Et puis, avec petit à petit, l'échange prenne place et que du coup, il soit moteur pour que des choses se fassent.
C'était très riche de pouvoir accueillir des gens qui ne connaissaient pas Genève, de voir Genève à travers leurs yeux, leurs questions, et voilà, de visiter Genève avec eux. Irun a d'ailleurs été leur guide, c'était vraiment bien. Et puis, on a aussi été nous-mêmes les invités qu'on allait à Bourg-en-Bresse.
Et oui, par exemple.
Et on a dû... participer aussi à l'installation qui avait eu lieu là-bas.
Donc de Tony Di Napoli avec Hors Limite.
Tout à fait. Et aussi, il y avait ces... Donc ça, c'était les rencontres transfrontalières, mais il y avait aussi cette rencontre avec le public, et que ce soit à Bourg-en-Bresse ou ici. Nos participants étaient d'excellents médiateurs. Ils étaient... ils répondaient aux questions du public. Ils étaient acteurs, parce qu'ils ont participé à l'installation, mais aussi...
Dans cette médiation autour de l'œuvre, finalement.
Tout à fait. Ils se sont vraiment appropriés ça, appropriés ce rôle. Et finalement, j'ai assez peu fait ça. J'étais plus dans la logistique et essayer de les. Mais ils étaient vraiment très très prenants de ça, de la rencontre et de la médiation de l'œuvre.
Donc du coup, avec ce projet César Barbosa, on voit que ça tombe bien effectivement parce qu'il y a cet anniversaire, ça lui donne aussi cette dynamique. Ça ouvre aussi des partenariats nouveaux avec d'autres partenaires artistiques de d'autres territoires. Et en même temps, ça contribue peut-être encore aussi un petit peu plus à montrer les valeurs encore un petit peu plus importantes que veut défendre, ou que défend même Cap Loisir, ici, à Genève.
Oui, tout à fait. Et puis, ce projet-là, au même titre qu'un projet précédent qu'on a présenté au Parc des Cropettes, où j'ai vécu aussi la même chose avec le projet à Bourg-en-Bresse, le fait d'être dans l'espace public. Je pense que ça, c'est très important, si on parle de citoyenneté, de donner une place aux personnes notamment handicapées à travers des actions. Et ça montre aussi... je pense qu'on va le constater cet après-midi, on l'a constaté nous au Parc des Cropettes, qu'en travaillant avec des artistes valides, des artistes handicapés, on arrive à un résultat où les frontières disparaissent et puis on se sent aussi acteurs, ce qui vient de dire Sylvia, ils sont acteurs, ils proposent quelque chose, ça contribue à la culture de proximité, ça contribue à la culture d'une ville en fonction de l'échelle du projet, mais c'est très important cette présence-là, soit dans un espace ouvert ou à la couvert, mais être dans la cité.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Naturellement Art, Nature, Singularité, Fondation Cap Loisir, Les Bains Paquis à Genève. Peut-être encore un petit point avec vous, César Barbosa, pour encore évoquer un autre aspect peut-être de ce qui peut se passer ici à Cap Loisir en accueillant toutes ces personnes. On a donc des individus qui viennent aussi participer aussi à des ateliers, mais petit à petit, ces individus, dans le fait au travers de ce qu'on va leur proposer, il y a aussi le fait que, à Cap Loisir, ça va être un ensemble, un collectif aussi, qui va devenir porteur aussi pour cet individu et qui va lui permettre petit à petit, au travers de tout ce qui lui est proposé, de s'affirmer aussi en tant que tel. Donc, du coup, comment l'importance du collectif pour permettre le devenir aussi de l'individu ?
Tout à fait. Donc, au moment d'inscription, des gens comme Ilou ou autres, ils vont prioriser une activité. Donc, cette activité, c'est un peu le pont, c'est le point de convergence entre des différents jeunes qui viennent de différentes institutions. Et c'est dans cet espace, autour d'une activité, soit-elle sportive, sensorielle, ou qui vont commencer à se tisser des liens entre eux. Donc, ça va les pousser aussi à avancer dans leur socialisation, à vivre autrement les groupes. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens, ils s'habitent tout le temps en groupe dans l'institution. Mais là, ces groupes se constituent à partir d'un soi individuel qui s'adhère à une activité. Donc, le fait il y a déjà ce point de convergence. Plus avec nos collègues coachs artistiques, par exemple, ils vont les pousser à dépasser certaines limites. Mmh. Et puis là, le côté groupe, il prend une autre face. Et puis c'est des forces, c'est des encouragements, c'est des découvertes faites ensemble. Et après, il peut y avoir plus tard encore une autre rencontre à partir d'un autre acte créatif. Et petit à petit, comme vous dites, ils vont commencer à évoluer soit dans l'artistique, soit dans les sociales, soit dans le fait juste de venir à Cap Loisir pour partager l'expérience d'un groupe.
Et puis du coup, on entendait Viviane Rabault tout à l'heure, peut-être Sylviane, vous pouvez réagir aussi à cela, où on disait bon, de 4 ans à 88 ans, là aussi, ça a permis ce travail, je dirais, de faire qu'il y ait un commun, un collectif ici qui prend forme, sur lequel chacun peut s'appuyer. Ça permet de rencontrer les autres, quel que soit l'âge, et au travers d'un projet comme celui-ci, ben voilà, de s'inscrire dans un autre collectif plus large.
Je pense que le thème même de son installation, le ministère de la Terre, nous fait ressentir un collectif. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'elle recherchait à travers ses questions, notre position d'être humain sur Terre. Donc voilà, il y avait dans la thématique de l'œuvre quelque chose de rassembleur et d'un collectif. Ouais. Et puis, c'est vrai que le lieu dans lequel s'est installé, au Bain des Paquis. Il y avait là des usagers qui sont des habitués et il y a aussi on s'est aussi inscrit dans un collectif.
On s'est inscrit dans un autre
des
collectif.
Des usagers des Bains des Paquis et voilà.
Et comment justement les personnes de Cap Loisir qui ont participé à ce projet ont vécu ces moments-là? Quels sont les retours un petit peu qui émergent de cette expérience-là nouvelle peut-être pour certains?
Alors. On avait des participants qui sont assez coutumiers de la pratique artistique à Cap Loisir. Donc voilà, ils étaient très prenants. Et les ateliers étaient vraiment très, très bien adaptés. Par exemple, on était dehors. Oui. Et puis, donc les gens venaient nous poser plein de questions. Qu'est-ce que vous faites? Et il y avait le technicien de Viviane donc, avait préparé. Et donc, tout le monde pouvait participer. On avait quelqu'un qui était hémiplégique, qui était quand même capable de scier du bois et qui était là. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Mais tout à fait. Non. Oui, donc on voit que, en même temps, à l'intérieur, je pense que c'est ça aussi, petit à petit, ce qui est sous-tendu dans l'œuvre de Vivienne Rabault et dans ce que vous exposiez, César Barbosa, c'est que petit à petit, chaque individu va pouvoir aussi assumer ses propres responsabilités à l'intérieur, son propre rôle, et donc du coup va vraiment contribuer à finalement au fonctionnement d'un commun, quel que soit, voilà. Il peut être acteur à un endroit, mais il n'est pas simplement minimisé, cet endroit-là, mais il est aussi important, il aura scié, mais il a participé à l'évolution de la réalisation commune. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement. En tout cas, peut-être que les pratiques artistiques interpellent des modalités d'un vivre ensemble, à votre avis, Sylvia ?
C'était surtout la visibilité qu'on avait en tant que Fondation Cap Loisir, qu'on soit à l'extérieur, qu'on participe à quelque chose d'artistique et que tous les usagers des bains puissent nous voir.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Naturellement Art, Nature, Singularité, Fondation Cap Loisir, Les Bains Paquis à Genève. Peut-être pourrions-nous, à Jeanne Pont, après déjà tout ce que nous venons d'entendre, que ce soit Vivienne Rabault, nos amis aussi de Cap Loisir, Irune Vasquez aussi également, aller un petit peu plus sur les aspects globaux un peu de ce projet, enfin les fondamentaux aussi qui entourent un petit peu cette action, qui a aussi bien des enjeux, je dirais, artistiques, on l'a entendu, humains bien évidemment, politiques aussi. Je dirais, qu'est-ce qui, du coup, au travers de ce projet, a concouru finalement à l'imagination d'une telle action finalement?
Ce projet, il a de particulier pour quelqu'un comme moi qui travaille dans un département de la culture, donc qui est une position officielle. Un département de la culture a deux axes de travail tout le temps. Il y a le soutien à la création d'une part. Ça, ce sont mes collègues du service culturel, piloté par Virginie Keller. Et puis, il y a tout l'autre volet qui est ce qu'on appelle les mesures d'accès. Alors moi, je suis plutôt du côté des mesures d'accès à la culture. Ce projet transfrontalier dans le cadre du comité régional franco-genevois, il m'intéresse moi tout particulièrement, et soutenir ce projet est tout à fait intéressant parce qu'il croise au fond ces deux dimensions qui sont à la fois le soutien, les mesures d'accès et le soutien à la création. La problématique de la création et du monde de la création et des personnes en situation de handicap est tout à fait particulière. Moi, en tant que personne travaillant dans un service municipal, je n'ai aucun levier concret là-dessus, sur cette particularité qui est l'accès à l'éducation artistique. Donc l'éducation artistique en Suisse n'est pas dans les mains des municipalités, elle est dans les mains des cantons. Des cantons. Donc moi, je n'ai pas de levier là-dessus. Or, c'est une vraie question. C'est une question de fond.
Complètement.
Si on veut être un artiste, qu'on soit musicien, qu'on soit plasticien, comment accède-t-on aux écoles? Eh bien, il y a quasiment pas de solution pour les écoles, les écoles, on va dire, standards et qui sont certificatives. Donc, au travers d'un projet participatif qui donne accès à des personnes en situation de handicap, non pas juste à la face consommateurs, si je puis dire, venez, regardez, assister, l'expo, et tout à coup d'entendre les gens de Cap Loisir dire que les gens qui ont participé, personnes en situation de handicap, qui ont mis à la main la patte de la création, mais en même temps de la médiation, pour moi, c'est signe qu'on a fait un pas énorme.
Extrêmement important, effectivement.
On a fait un pas extrêmement important, puisque non seulement on permet d'accéder à des personnes en situation de handicap, en général à Genève, puisqu'il y a un vernissage, puisqu'il y a une œuvre qui va rester dans l'espace public, puisqu'il y a de la médiation qui va se faire à partir de maintenant, qui permettra à toutes sortes de personnes d'accéder. Il y a cette facette-là, donc venez consommer, qui que vous soyez, accès pour tous à la culture. Mais il y a aussi la facette, venez créer avec nous. Et puis, il y a aussi la facette, si vous êtes venu créer avec nous, participer à la médiation. Donc, pour moi, c'est un projet qui est proche de l'idéal.
Oui, parce qu'en plus, on a souvent peu l'occasion, en tout cas au travers de certains projets, d'avoir aussi la personne en situation de handicap qui devient transmetteur, qui devient médiatrice aussi vis-à-vis d'un tout autre public. Donc, du coup, comment la parole de cette personne est identifié en tant que parole et non plus une parole subalterne ou une parole qui pourrait être négligée ou de par l'étiquette qu'on lui affuble ou qu'on lui attribue, ne pas la prendre en compte à l'endroit où elle devrait être prise en compte.
Alors là, on est vraiment toujours dans cette problématique, le handicap est-il ou non une légitimité artistique ?
Bien sûr que non.
Bien sûr que non, le handicap n'est pas une légitimité artistique.
Complètement, oui.
Par contre, la personne de la parole de la personne en situation de handicap, dans un projet artistique qui est de belle tenue et qui peut être soutenu par des pouvoirs publics, parce que là, il y a quand même les pouvoirs publics de 3 territoires, c'est pas rien.
C'est pas rien, effectivement.
La Haute-Savoie et Genève qui soutiennent des projets artistiques sur la base d'un appel à projet auquel participent des artistes de renom, mais aussi des artistes moins renommés, ce qui n'enlève rien à la qualité artistique de leur projet quelquefois. Et donc, on est dans un circuit, on va dire, professionnel où les voix peuvent se faire entendre, peuvent aussi être coachées d'une certaine manière. Je veux dire, ce qui est intéressant dans le groupe, dans le fait que le monde artistique se mette en contact avec le monde du handicap, qui, ici à Genève, se met aussi en contact avec le monde scolaire, puisque 5 établissements scolaires vont, à partir du projet du Bain des Paquis, développer sur toute l'année scolaire toute une série d'actions autour de la création artistique, le partage entre personnes de situation de handicap et le partage entre écoles et ainsi de suite. Donc, au fond, faire que tous ces gens-là se retrouvent, travaillent ensemble, interagissent et s'enrichissent mutuellement. Parce que si la personne en situation de handicap dans un projet artistique n'aura peut-être pas forcément les compétences artistiques, on va dire, standards, elle va apprendre, mais surtout la personne du monde artistique, et c'est ce qu'on remarque, elle va apprendre énormément.
Oui, il y a vraiment interaction,
de
réciprocité.
De la personne en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des problématiques qui sont des vraies problématiques de société, qui sont extrêmement intéressantes, par exemple pour moi, qui sont sur la problématique du slow up, c'est-à-dire du rythme. On vit et on souffre tous de la frénésie dans laquelle on vit, des rythmes effrénés qu'on nous fait vivre de plus en plus souvent et dans lequel on rentre comme ça sans trop réfléchir. Une des choses fondamentales qu'on apprend en étant en contact avec des personnes en situation de handicap, c'est que le rythme est plus long.
Donc la temporalité.
Et alors, tout se passe bien. Tout se passe bien et tout à coup, on se dit, tiens, on travaille avec eux, puis on a l'impression de respirer dans ce projet. Donc voilà, il y a cette contamination des uns et des autres.
Donc du coup, qu'on ne prend pas assez compte des différentes temporalités des uns et des autres et que tout ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner à la même vitesse, à la même temporalité.
Oui, mais du coup, c'est une richesse de se dire qu'on peut avoir une temporalité plus lente, en fait.
Complètement.
Et voilà. Donc ce travail comme ça de co-construction et de d'apprentissage mutuel des uns et des autres, soutenu par une collectivité publique, pour moi, c'est juste faire son boulot et faire et être dans les fondamentaux, en fait.
Et cette contamination, alors là, on le sent bien dans vos propos par rapport à ce que peut-être tout le territoire de la ville de Genève. Extrapolons un petit peu et regardons et prenons d'un petit peu plus haut l'observation dans le fait que du coup ça associe ces trois territoires. Est-ce que vous sentez depuis, alors je remonte un petit peu plus en amont, effectivement au début de l'action culture réunie finalement, puisque ce projet s'inscrit dans cette dynamique globale définie par le comité régional franco-genevois, est-ce que vous voyez des choses bouger, c'est-à-dire cette interaction que vous dépeignez et qu'on sent bien toute cette synergie ici, est-ce que vous sentez qu'elle se transpire ou qu'elle elle aussi, par toutes ces actions menées en commun actuellement, commence quand même à faire bouger des choses aussi dans cette interaction transfrontalière, si on peut dire un peu comme ça, ou coopération transfrontalière.
Donc le projet Culture Réunie, dans lequel s'inscrit le projet naturellement, a posé ses premiers jalons en 2010, donc ça fait 5 ans maintenant.
Ça fait 5 ans,
ouais. On a commencé par une mise à plat de que se fait-il ici et ailleurs, dans les trois territoires. Je pense que ce travail, qui est un travail de niche au départ, parce que ce qui est très difficile, et ce qui a été très difficile dans ce projet, mais qui continue à être un petit peu difficile, c'est qu'il faut manier le mot handicap avec beaucoup de dextérité. Parce que quand on dit handicap, beaucoup de gens se disent « Ah ben, c'est pas pour moi ». C'est pas ça. Pour moi. Donc, d'entrée de jeu, on dit, bon, bah, si c'est pour les personnes handicapées, c'est un truc pour les handicapés. Très bien, mais j'ai pas le temps, c'est pas moi.
C'est pas moi, voilà.
Et c'est quelque chose qui est très fort dans le milieu artistique.
Complètement.
Et donc, dans le milieu artistique, ça veut dire les programmateurs de salles, ça veut dire ceux qui construisent des saisons, ça veut dire ceux qui construisent des projets aussi, hein, comme un
metteur en scène. Ça veut dire ceux qui enseignent aussi également.
Ça veut dire ceux qui enseignent. Et ça c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est vraiment en train de commencer un tout petit peu à bouger ici à Genève.
On attribue beaucoup... pratiques spécifiques, publics spécifiques.
Exactement. Il y a l'éducation spécialisée, il y a les publics spécialisés, ouais. Il y a les actions pour les publics spécialisés. C'est très bien si les musées le font, c'est très bien si les bibliothèques le font. Mais au fond, je vais dire quelque chose d'horrible. Ne mélangeons pas les serviettes et les torchons. Je ne dirai pas qui sont les torchons. Parce qu'ils peuvent très bien être du côté artistique.
Mais la métaphore est forte.
La métaphore est forte, mais je pense qu'il faut utiliser des métaphores fortes aujourd'hui pour faire bouger les choses. Alors, c'est vrai qu'à Genève, il y a un festival qui s'est mis en place maintenant, qui s'appelle Out of the Box, d'art inclusif. Il y a aussi, bah, justement, Cap Loisir qui commence à faire des actions hors mur au parc des Cropettes. Donc là, Imaginarium, un magnifique spectacle qui est au cœur de la cité, qui invite tout le monde à venir. Donc, au fond, j'ai l'impression qu'à Genève, il y a ces mouvements comme ça.
Il y a tous ces mouvements qui sont en train de contribuer à changer la vision.
Qui sont en train de changer la vision, Cap Loisir est aussi dynamique au moment de la Saint-Valentin, avec tout un travail d'affichage public autour d'un thème, là, nouveau, d'un thème fondamental, le thème de l'amour. donc voilà, qui envahit la rue, etc. Donc j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le projet transfrontalier qui permet ça. Il est vrai que ce qui est intéressant pour nous au départ, et si on s'est engagé en tant que collectivité publique et argent public dans ce projet-là, c'est parce qu'en Suisse, on n'a pas un système normatif et législatif contraignant, véritablement contraignant dans le domaine de l'accessibilité, de l'ouverture et au monde du handicap. Alors, il y a des normes, bien sûr, mais derrière, il n'y a pas un système aussi contraignant qu'en France, par exemple. Et donc, ça nous intéressait d'être aussi en contact avec la France voisine, puisque de toute façon, Genève n'est qu'une petite enclave dans la France. Hein.
Quelque part.
Et complètement entourée de la France.
C'est vrai.
Et voilà, et presque séparée de la Suisse. La frontière genevoise avec la France est bien plus importante qu'avec la Suisse. Donc, c'était aussi intéressant de se dire qu'on pouvait être avec des interlocuteurs qui, eux, avaient plus de contraintes et peut-être amener non pas l'aspect contraignant de ces lois, mais l'aspect positif.
Positif aussi de cet aspect-là législatif.
De cet aspect législatif mis en place en France.
Mais vous les sentez aussi un petit peu bouger dans leur réflexion aussi, parce que c'est aussi ça qui va être important. On parlait tout à l'heure que l'échange, la rencontre, là aussi c'est quelque chose d'essentiel pour nourrir justement l'engagement et aussi éclairer peut-être, ne pas être aveugle aussi par rapport à ses propres pratiques et justement revisiter ses propres pratiques. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que voilà, cette collaboration à plusieurs, là aussi, contribue ou participe en tout cas, là aussi, à faire bouger des lignes et des frontières, si je peux, on est dans un domaine transfrontalier, mettre ce terme.
Bon, en tout cas, ici à Genève, on sent que quelque chose bouge à plein de niveaux, y compris au niveau politique et au niveau législatif. Genève a vécu les 10 dernières années tout un débat et autour de la mise en place d'une nouvelle constitution cantonale genevoise. Donc celle-ci est mise en place et dans cette constitution, on a quelque chose d'assez particulier que le reste de la Suisse n'a pas du tout, qui montre que les frontières sont en train de bouger, c'est que la langue des signes fait partie des langues officielles à Genève. Aujourd'hui, et que c'est encore loin d'être le cas, mais que
oui, ça fait important,
au niveau des parlements et du parlement municipal genevois notamment, il y a une Sandrine Burgère qui est une députée au parlement genevois qui est très très active et qui ne cesse de réclamer que tous les discours officiels, toutes les manifestations officielles soient traduites en langue des signes. Donc ça c'est quand même pas rien d'avoir inscrit dans une institution que un signe extérieur quand même très très visible d'un handicap dit invisible, parce que la surdité est un handicap invisible, mais un signe visible très fort, cette langue des signes, qui est une langue du corps entier.
Du corps entier, absolument.
Voilà. On sent aussi, alors ça c'est le côté politique et législatif, mais on sent aussi des chorégraphes comme Foufoua d'Immobilité ou comme Oumar Nezepotsi, où on sent que des gens qui sont qui sont aux manettes au fond de la création artistique s'emparent de la problématique de la différence, tout simplement. Les musées également, le musée Ariana met en place des visites partage depuis quelques années. Partage, ça veut dire qu'il y a une co-responsabilité, un co-guidage de visite, c'est-à-dire qu'une personne aveugle et une personne voyante commentent à deux voix une exposition, on renverse quelquefois les problématiques, c'est la personne aveugle qui devient guide et le voyant se voit, on lui bande les yeux et il doit découvrir
d'une autre manière l'exposition.
Et chacune de ces visites n'est pas juste le prétexte à découvrir un artiste ou de l'art, c'est aussi un moment de partage et d'échange sur les perceptions, sur la réception, sur la manière de comprendre et d'appréhender le monde de l'art. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est ce projet transfrontalier, mais en tout cas quelque chose.
En tout cas, il y contribue.
Il y contribue et je pense qu'il y contribue d'autant plus qu'il a une valeur exemplaire. Ce projet-ci, cette édition-ci 2015, a vraiment atteint tous les trois objectifs dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire accéder à la culture, accéder à la création artistique et accéder à la parole et prendre la parole pour transmettre la parole artistique aux autres. Donc, le travail de médiation.
Je crois que c'est sur cet aspect de bilan-conclusion, si on peut dire ainsi, que cette émission va arriver à son terme. Donc, si vous désirez, chers auditeurs, en savoir un petit peu plus encore sur Naturellement et sur ces rendez-vous qu'on peut encore visiter au cours des prochaines semaines et mois, vous pouvez vous rendre sur www.rencontre-naturellement.com. Merci à vous tous de votre présence et de vos témoignages. Merci encore à la Fondation Cap Loisirs de nous avoir accueillis ici pour réaliser cette présente émission. Merci à Nicolas Galliot, à la technique, à Simon Deborne pour la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez podcaster, réécouter cette émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis une nouvelle fois chez vous. Que cette journée vous soit douce et à bientôt.